auditeurs, on est dans la nouvelle sous-partie de Ravenloft. Et il y a Raf qui est là, salut Raf.
Hello, hello.
Fabrice qui est là aussi en train de manger.
Bonjour, bonsoir.
Et Alain.
Salut, salut, ça va?
Et donc, la dernière fois, ce qu'on avait fait, c'est que vous. En gros, vous aviez recherché le mage fou sur les monts Baradoc, les montagnes de la Barovie, dans l'espoir qu'il puisse vous aider à combattre les Mindflayers, les flagelleurs manteaux qui se trouvent maintenant à la frontière de la Barovie. Et vous avez réussi à trouver le mage fou sous la forme d'un cerf dans la forêt. Vous lui avez parlé. Enfin, de toute façon, ce que vous avez fait la dernière fois, techniquement, c'est que vous aviez été rechercher son grimoire, et vous aviez affronté un Oni pour le retrouver, et vous aviez aussi retrouvé son bâton magique, après, c'était très content d'avoir. Et donc, la mémoire lui est revenue, et donc, il a repris une apparence plus normale, et il vous a révélé qu'il s'appelait Mordenkainen, qui est une légende vivante dans le multivers de Donjons et Dragons, donc les lances, enfin, vous en avez peut-être déjà même entendu parler, tellement c'est un personnage célèbre. Et juste à la fin du scénario, il avait ouvert une porte donc vers sa demeure. Donc, en fait, c'est une porte qui se matérialise devant vous, qui apparaît. Il n'y a rien derrière la porte, elle apparaît dans le vide, mais évidemment, quand il ouvre la porte, elle mène vers son manoir, qui est un des sorts les plus célèbres du Donjon et Dragon depuis très longtemps. C'est le manoir de Mordenkainen, qui est un sort qui permet de faire apparaître un manoir comme ça, où que vous soyez, pour les magiciens de haut niveau. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas, évidemment, Mordenkainen, au départ, c'était un des personnages de Gary Gygax quand il jouait, et puis en plus, dans les premières éditions, il donnait son nom, les noms des personnages de sa campagne au sort. Donc le sort s'appelle The Marvelous Mansion of Mordenkainen, je pense, quelque chose comme ça. Enfin, là, le manoir de Mordenkainen. Donc c'est carrément son sort qu'il a inventé tout seul. Le manoir somptueux de Mordenkainen, traduction officielle. Et donc quand vous rentrez à l'intérieur, de toute façon, on va dire que depuis la dernière fois, il vous a invité. C'est un endroit vraiment magique et féerique. Et donc, vous avez pu vous reposer, faire un repos long. Et vous êtes. Enfin, le temps ne se déroule pas de la même façon à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'espace est magique. Il a tout son équipement pour faire de l'alchimie, sa bibliothèque, etc., qui se trouve à l'intérieur. Et. Vous finissez par vous retrouver à la table d'un banquet qu'il vous a préparé, enfin, magiquement, évidemment. Mais, pour parler avec lui. Et donc, j'imagine que vous lui expliquez, de toute façon, il vous dit que je suis extrêmement reconnaissant que vous ayez réussi à briser l'amnésie qui m'avait atteint. Vous m'avez été d'une grande aide. Et vous me dites que vous avez battu Strahd le vampire à vous quatre, alors, à vous trois.
Exactement, mais on n'a pas fini. Il faut encore battre l'entité originelle.
Le vampire.
Oui, et d'ailleurs, à ce propos, on aurait bien besoin d'une petite aide de votre part. Un ou deux objets bien puissants pour m'aider à déterminer. À exterminer cette entité me ferait grand plaisir.
Oui, dans mes recherches, j'ai découvert donc que les entités qui règnent sur le demi-plan de Ravenloft viennent du plan des ombres, hein, et que ce sont des sortes d'entités au pouvoir pratiquement divin. Et effectivement, dans le plan de Ravenloft, dans cette zone-ci dédiée à Strahd, j'avais aussi déterminé que l'ombre principale qui était la cause de tout ça, s'appelait Vampire, était une sorte de créateur des vampires originels. Bah écoutez, Moi, évidemment, ça fait. J'ai déjà été absent trop bien trop longtemps de mes devoirs dans le multivers, mais je suis prêt à vous aider dans la mesure du possible. J'imagine que vous allez lui parler de vos besoins par rapport au sort pour combattre vampire. Et il se fait que dans le sous-sol de son manoir, il a une pierre d'ambre avec lui qu'il peut vous donner, donc un sarcophage d'ambre. Ça fait
Oh.
partie de son équipement qu'il a dans son.
C'est déjà ça qu'on doit pas trouver.
Et aussi, Fabrice, il te dit que pour te remercier de l'avoir sauvé, tu peux garder son staff magique. Il en a
Yes.
d'autres, de toute façon.
Yes, yes, yes.
Il se retourne, il ouvre une armoire et il y a genre 20 staffs.
Oui, par contre, le cercueil, il faut un trou portable pour le mettre dedans ou quoi?
Vous n'auriez pas un sac, un sac
Oui,
sans fin?
infini, là, les sacs sans fin, tu pourrais mettre un rocher. Non,
Oui,
je
c'est
sais
ça,
même
un
pas
sac
si.
sans fond, on a dit un trou portable, c'est un peu ça, tu vois.
Sais même pas comment vous mettriez un sarcophage dans un sac. C'est quand même un sac normal, quoi. Ouais.
Bah en fait, tu bouges pas le sarcophage. Je mets le sac autour du sarcophage.
J'imagine le petit sac et t'essayes de le faire rentrer autour du truc. Ouais, ça a l'air
Le
quand même d'être.
sac est magique. Ça fait
Ouais, c'est ça. Ouais,
ouh.
c'est vrai. C'est un mode d'Harry Potter. Écoute, soyons fous, pourquoi pas. Je ne suis pas opposé à l'idée. Je vous donnerai un sac magique qui permette de transporter aisément le.
On le rend après, hein. On n'en a pas vraiment besoin, c'est juste pour l'ambre, quoi.
Oui, bien entendu, mais lui, il vous dit. Donc, il vous a expliqué qu'il a des devoirs très importants comme gardien du multivers et il a été retenu bien trop longtemps ici. Et donc, maintenant que Strahd a été tué, il est possible de se téléporter à l'extérieur, de retourner dans les plans, dans les autres plans. Donc, d'ailleurs, si vous le souhaitez, il est d'accord de vous téléporter dans les royaumes oubliés.
D'accord, on aura fini.
Ouais, bah lui, il va partir rapidement, ouais.
Moi, je m'offusque un peu parce que, je veux dire, qu'est-ce qui l'amène à privilégier d'autres plans par rapport à celui-ci? C'est une menace assez terrible, en fait, pour l'équilibre du bien.
C'est pour l'équilibre du bien. Oui. Il dit justement pour l'équilibre, on ne doit pas interférer avec ces. L'existence de vampires ici est pratiquement un processus naturel, donc.
Donc il faut pas s'en débarrasser, quoi.
Si vous, j'ai confiance dans vos capacités à l'enfermer dans l'ambre. Et donc, ouais, si vous pouvez rester là quelques jours, hein, voilà, et vous reposer, etc. Sinon, après, il vous fout dehors. Hein.
Ah, super. Donc,
Non.
son aide se limite au bâton et au sarcophage, quoi.
Bah, pour l'instant, je considère que vous lui avez parlé de Strad, mais vous n'avez rien demandé d'autre, donc.
Ah bah si. Bah, Fab, elle a expressément demandé des sorts supplémentaires.
Des sorts.
Non,
Pourquoi
non,
faire?
c'est la fois passée, on avait parlé du livre, j'avais le temps de regarder, mais voilà.
Ah oui, c'est
Mais
ça, ouais.
je l'étudie un petit peu quand même, toi, si je peux profiter de quelques jours d'études, moi, ça me ferait plaisir, évidemment. Et voir s'il n'y a pas des sorts qui pourraient m'aider, quoi.
Et
Ok,
il faut lui parler des flagelleurs manteaux.
ouais.
Chut, Titi.
Ok. Ouais, bah écoute, pour les sorts, il te laisse fouiller dans la bibliothèque, donc ouais, pour la fois prochaine, tu pourras te choisir un sort de ton choix, que tu
Bah, un
veux.
sort d'anti-contrôle, tu vois, que le flageolet mental ne puisse pas rentrer dans mon cerveau. Une barrière mentale, je sais pas si ça existe un sort comme
Bon,
ça, mais
alors,
si je me
pour les
souviens.
flagelleurs manteaux, il vous propose effectivement, si vous lui expliquez le problème, et pour vous remercier, il vous propose son aide. Et donc, il va lancer un sort qui s'appelle Mind Blank. Ouais, je n'ai pas regardé la traduction française, mais donc le cerveau blanc, oui, le cerveau effacé, un peu
Vide,
comme
vide.
cerveau vide, oui, Mind Blank, oui. Et donc, c'est un sort qui est valable pour 24 heures. Et avec Mind Blank, vous êtes immunisé aux attaques psioniques, quoi. Donc, toutes les attaques télépathiques, tous les dégâts psychiques qu'on pourrait vous faire pendant 24 heures sont désactivés.
Oui,
Ce qui est l'attaque principale.
Oui, au lieu de lancer tout de suite parce qu'on n'est pas sûr qu'on va attaquer dans les 24 heures, ce serait pas plus facile d'avoir un scroll qu'on pourrait invoquer au moment de. Non? C'est possible?
Ouais. Oui, juste pour ça, pour toi, Fab, c'est un sort de niveau 8, t'es pas encore capable de lancer.
Non, non, je sais pas lancer, c'est pour ça que je demandais.
Oui, ouais, totalement. Mm-hmm. Oui, non, parce que sinon, il aurait été d'accord de te l'apprendre, mais c'est un sort de niveau 8, donc c'est au-delà de tes capacités, quoi. Bah, écoutez, il peut vous faire, évidemment, ce sera la dernière chose qu'il fera, mais un parchemin avec trois sorts pour vous immuniser contre les attaques des flageurs mentaux.
Super.
C'est évidemment extrêmement balèze quand des flageurs mentaux, hein, parce que vu que ce qui est le plus dommageable chez eux, selon les attaques psioniques, ça va les déforcer énormément, quoi. Et donc, une fois que c'est lancé, une fois que vous avez lu le scroll se détruit. Enfin, de toute façon, vous le faites pas maintenant, hein, je sais bien, mais je décris juste quoi. Le scroll, le parchemin se décrira et se réduira en cendres et vous serez immunisé contre les attaques mentales pendant 24 heures. Quoi.
Oui, c'est ça. Parfait.
Techniquement, ouais. c'est le meilleur sort qu'on puisse avoir contre les flagellaires mentaux et il l'a dans son stat block, donc il n'y a pas de raison qu'il le lance pas pour vous. Voilà. Et donc, après ces quelques jours qui sont passés avec lui, et vous avez récupéré ça, il ne reste plus qu'à vous remettre en marche. Et donc, vous ressortez du manoir, vous êtes de nouveau sur le mont Paratok, et vous remercie une dernière fois de votre aide, et puis il ferme la porte, et la porte disparaît. Et donc, vous êtes en train de redescendre sur le flanc de la montagne, en train de vous demander ce que vous allez faire. Et évidemment, vous regardez le ciel est assez agité, il y a pas mal de nuages et c'est assez pluvieux comme ça. Mais vous apercevez quelque chose d'étonnant dans le ciel. Vous apercevez une sorte de bateau qui flotte. Enfin, comment on décrirait ça?
Un nautiloïde
en train de voler dans le ciel, ouais. Donc ça ressemble à une sorte de mollusque un navire mollusque qui flotte dans le ciel et qui arrive dans votre direction, qui vole au-dessus de la Barovie, et vous remarquez qu'en fait au-dessus de la structure, je l'ai pas évidemment en illustration spécifique, hein, mais bon, j'ai mis des images de nautiloïde. Au-dessus du nautiloïde, il y a carrément le haut de la forteresse, en fait, le sommet du nautiloïde, c'est la forteresse que vous aviez vue quand vous avez visité, quoi. Et donc vous réalisez qu'en fait la forteresse que vous aviez visitée, elle était au-dessus du nautiloïde, quoi. Et maintenant, c'est une sorte de mécanisme de camouflage pour eux. Et maintenant,
quelle forteresse?
La forteresse que vous avez explorée, vous avez vu les Baneflayers, il y a deux parties. C'était un château en ruine comme ça.
Ouais, ok.
Tu vois? En fait, le sommet du nautiloïde, c'est le château en ruine.
Donc ils ont fait un gros trou, ils ont une bazar dessus.
Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Exactement, ils s'enfoncent dans la terre et ça devient. Et donc les nautiloïdes. D'ailleurs, quand vous étiez dans le château, vous étiez arrivé à un endroit où il y avait un tunnel qui s'enfonçait dans. Enfin, c'était même pas un tunnel, c'était un puits qui s'enfonçait dans les profondeurs. Ouais. Évidemment, les Mindflayers flottants, ça posait pas de problème pour descendre. Mais vous êtes pas descendu. Mais en fait, maintenant, vous rendez compte que si vous étiez descendu dedans, vous seriez arrivé dans le nautiloïde. Ça a du sens?
Ouais.
Ouais. Et donc, vous voyez que le nautiloïde fonce, descend vers la Barovie et il y a une sorte de tremblement de terre. Quand le nautiloïde se pose ou s'écrase, c'est pas déterminé. Vous pensez qu'il est arrivé dans la région de probablement du là où il y avait le moulin des Hags, qu'il a écrasé le moulin des Hags. Et donc au moment de l'impact, il y a le sol qui tremble autour de vous. Une secousse de tremblement de terre au moment où le nautiloïde se pose dans la Barovie.
Ouais. Ok, we're fucked.
Bon, on va prendre le thé avec eux.
Staff of Power. Très rare. Alors, ses caractéristiques. Il donne un plus 2 à la... T'es prêt à prendre note?
Ok.
Il prend un plus 2 à l'attaque. Donc, il est plus 2, quoi. Plus 2, plus 2. Hein. Plus 2 à l'attaque, plus 2 aux dégâts. Et quand vous l'avez en main, t'as aussi un plus 2 à la classe d'armure.
Ça, c'est bien.
Ouais, c'est appréciable.
Et ensuite, le staff, il a 20 charges. Et il en récupère 2 D8 plus 4 chaque matin. Donc, quand tu frappes avec ton staff, tu peux dépenser une charge pour faire 1 D6 plus de dégâts. Et tu peux casser ton staff. Alors, si tu le casses, ça dégage une explosion qui s'étend sur 30 foot de distance. Donc, en fait, t'as fait une explosion comme dans Dragon Ball. C'était vraiment désespéré. Donc, tu peux, en le cassant, soit sur ton genou en deux ou sur un rocher, quoi. Ouais. Ah oui, attends, parce que quand tu fais ça, dans la description. Ok, quand tu fais ça, t'as 50% de traveler, de voyager aléatoirement sur un autre plan d'existence et t'évites alors l'explosion.
Oui, c'est ça. Oui.
Mais t'as que 50%. Sinon, évidemment, les autres doivent faire un jet de saving throws et si t'es toujours là, toi aussi. Et alors, les dégâts, c'est 8 fois le nombre de charges qui restent dans le staff. Ouais, donc si t'as encore 20 charges. Et tu fais 20 fois 8 en termes de dégâts, c'est pas mal. Hein. En 60 points de dégâts.
C'est un peu paradoxal parce que c'est un bâton, t'as envie de frapper fort et en même temps, t'as pas envie de le casser, quoi.
Bon, évidemment, s'il réussit le saving throws, dextérité saving throws, difficulté 17, ils prennent que la moitié des dégâts. Et sinon, alors, tu peux lancer les sorts suivants avec le staff. Chaque fois, je te dis le coût en charge. Ouais. Cône de froid, 5.
Ouais, mais ça va, j'ai trouvé les infos. J'ai...
Ah, tu l'as trouvé?
Ouais, ben, dis-moi si ça correspond au même. Ça,
en fait, ouais, Fireball, 5. Ouais. Globe d'invulnérabilité, 6. Ouais. Old Monster, 5. Ouais. Lévitation, 2. Ouais. Lightning Ball, 5. Magic Missile, 1. Array of Enfeeblement, 1. Et Wall of Force, 5.
Ouais. Ok, bah ça va.
Ça, c'est le nombre de charges que ça prend. À ma connaissance, c'est un Staff of Power classique. Hein, c'est pareil.
Oui, c'est ça, ouais, tout à fait.
C'est pas exceptionnel.
Ok, parfait. Ça marche.
Bon, je crois que là, vous êtes prêts à aller vous faire des dieux, non? On est presque.
Je sais pas, mais les Manflayers, on est...
Les Manflayers, ça devrait aller. Raphaël a été coupé, je crois, ouais. Cool. En tout cas, ouais, depuis là où vous êtes, vous pouvez voir un peu de fumée qui s'élève de la zone où il y avait le moulin avant. Bon, vous êtes assez loin, hein, au moins une trentaine de kilomètres, mais après l'impact, hein, ça a laissé, quand le nautiloïde s'est écrasé là-bas. Comment vous abordez la chose?
C'est une bonne question.
Vous avez les données du problème, non? Mmh. Et probablement assez une solide force de frappe.
Et le tout, c'est de savoir si on doit frapper fort en un seul coup ou s'il faut faire face à de l'attrition et sur un long combat.
Il faut se méfier comme de la peste du mind control.
Ça, on a une arme.
Oui, nous, oui. Mais si par exemple on fait une diversion avec des loups-garous, il faut mal en plus qu'ils soient tenus par le mind flayer, quoi.
Bah. De toute façon, dans un premier temps, on y va le plus vite possible, et puis on avise sur place.
Ouais, faudra bien.
Faudra bien, hein, on va essayer de prendre des renseignements pour voir ce qui nous attend un peu en termes d'effectifs.
Bon, bah alors on lance le sort et on rentre dans le lard.
Ça peut être une possibilité, ou on fait un peu d'observation avant de rentrer dans le lard.
Oui, non, on ne sait pas si. Je sais pas. Moi. Est-ce que c'est comme une garnison? Ils ont un tour de garde, ils ont des machins, ils ont des... je sais pas.
Ouais.
Ouais, et surtout combien ils sont, quoi.
Ouais, voir combien il y a de relèves, combien de machins, combien de... je sais pas.
Ok. Alors, on y va.
Ok. Donc, vous voyagez, vous parcourez, ça prend une demi-journée, un truc comme ça, pour atteindre. La zone où il y avait avant le moulin. Bah, effectivement, quand vous arrivez, vous vous rendez compte que le moulin a complètement été écrasé par l'atterrissage du Nautiloïde, il n'en reste plus rien. Vous n'êtes pas très très loin de la Barovia, de Barovia, du village. Ou même du château, hein. Ils sont vraiment à proximité maintenant. Et donc maintenant, vous voyez en fait la même forteresse, ou le même château en ruine. Ça a l'air d'être un château en ruine, en fait, de là où vous êtes, hein. Que vous avez vu, il y a quelques, peut-être une semaine de là, à l'ouest de la Barovie. Mais donc maintenant, il est plus du tout au même endroit, quoi. Et voilà, il se dresse là, menaçant. souvenez qu'il a, il a l'air totalement en ruine. Il n'y a pas de bruit. Tout est très très calme à proximité. Il a l'air complètement abandonné en fait de là où vous êtes. Hein.
C'est pas... Est-ce qu'il est éventré ou pas?
De quoi?
Est-ce qu'il est éventré ou pas? Est-ce que,
tu vois, dans quel sens éventré?
Bah, oui. Dû à la chute et aux dégâts, est-ce que c'est, par exemple, le côté latéral, il est complètement...
Ah non, pas du tout. Oui, non. Mmh. Oui, non, il n'a pas... En fait, ils ont atterri, entre guillemets, donc en s'enfonçant dans le sol, ça a créé le tremblement, mais en fait, ça fait partie du processus normal, donc il n'est pas plus endommagé qu'il ne l'était avant. En fait, pour vous, c'est vraiment juste bizarre, quoi, parce que vous l'avez vu, il est exactement comme vous l'avez vu il y a une semaine de ça, mais simplement, il est plus du tout géographiquement au même endroit.
Mm-hmm. Right. Et donc ça a l'air désert. Je sais pas, peut-être on pourrait faire appel au corbeau-garou pour se rapprocher plus près, voir à l'intérieur.
Ouais, une visite dans les airs, ouais, un survol, ça serait bien.
Oui, bon, vous pouvez facilement faire appel à vos alliés, hein. Il n'y a pas de problème. Mais... Donc si, en fait, si vous demandez à un corbeau-garou de voler, où il commence à vous apercevez donc des corbeaux-garous qui survolent le château, qui virevoltent autour, et puis qui essayent de s'approcher très prudemment parce qu'ils savent que c'est une menace. Et de l'extérieur, il y a rien qui se passe. Et puis, ils viennent un peu plus téméraires. Donc il y en a un ou deux qui volent à l'intérieur, et puis ils reviennent vous voir et ils disent qu'effectivement à l'intérieur il y a des, c'est très bizarre. Il y a des créatures qui semblent, elles semblent totalement absorbées, elles ne réagissent pas à notre présence, elles sont totalement, comment dire, oui c'est ça quoi, enfin, c'est les monstres ont l'air d'être dans un état de transe comme ça.
Dans un état de transe, donc en fait ce qu'on pourrait faire c'est aller par au-dessus, trouver une brèche et lancer une boule de feu dedans, c'est ça? Ça marche? Moi, je trouve ça pas mal, tu vois. Il faut que je teste mon bâton. Hein.
Ça, c'est sûr. Après, il faut voir l'air d'effet parce que ça a l'air d'être. Enfin, si ça a la taille d'une forteresse.
Ouais, mais ça se propage, tu vois. Tu fais comme ça va un incendie, quoi. Tu vois, je veux dire.
Ah oui, il faut voir si c'est inflammable à l'intérieur.
Ça un peu pas. Enfin, tu vois, c'est pas. Tu vois, je vois ça un peu comme. Pas un truc spongieux, mais toi, un peu à l'alien, quoi, tu vois. Il y a une infrastructure un peu plus organique que métallique et ça peut peut-être cramer et s'étendre, tu vois. C'est ça que je veux dire.
Ouais, il faudrait voir. Mais, parce qu'ils sont bien gentils, nos amis les corbeaux-garous, mais il y a des créatures, mais combien? Ils en ont vu combien? Parce que.
Ouais, c'est exactement ce que moi, j'ai pas compté exactement, mais donc il y a des. Il y a des sortes de toute façon, peu importe les noms des créatures, mais ce dont il vous parle, donc il y a des sortes de cerveaux, des cerveaux avec des pattes là, qui sont comme des chiens avec des cerveaux. Il y a quelques mind flayers. Donc on parle ici de l'étage où c'est le château. Hein. Je crois qu'il y a 2-3 mind flayers, quelque chose comme ça. Et puis le reste, c'est ce qu'ils appellent des trolls, donc des trolls. En fait, c'est des humains qui ont été modifiés par les mind flayers, donc ils ont des tentacules qui sortent de la bouche, mais ça reste des êtres humains, des serviteurs humains, quoi, des Baroviens qui ont été modifiés génétiquement. Sur... Et donc ça, ouais, ça, il y en a beaucoup plus au premier étage. Mais ouais, enfin, et encore, non, il n'y a pas grand-chose au premier. Peut-être des trolls, il y en avait peut-être 8-9 au premier étage. Des mind flayers. En plus, c'est des jeunes mind flayers. Il y en avait 4, je crois, 3-4. Plus les chiens cerveaux là. Ah oui, j'oublie, t'as deux des sortes de Beholders qui sont fait modifier par les Illithids et qui sont des gros blobs avec des tentacules qui flottent dans l'air et qui monitorent l'environnement, quoi. Et ça, il y en a deux aussi, ouais.
Heureusement qu'ils n'ont pas oublié de nous en parler. Les corbeaux-garous, quoi, t'imagines. Ah oui, en fait. Il y avait 20 beholders, mais on l'a complètement oublié. Désolé.
Ils te disent ça après quand tu sois arrivé sur place. Quand on porte, ah, Tu sors en rampant de ce truc, tu te fais allumer comme un sauvage, et puis tu dis au Corbogaro, mais putain, vous avez pas vu les beholders? Ah non, désolé, on les a pas vus.
Ouais, c'était dans des romans Dragonlance où il y avait des lutins qui savaient juste compter 1, 2, 3 et beaucoup. Hein. Et donc, chaque fois que les héros demandaient combien de monstres, ils disent au moins 3. Ah, oh, bah finalement, il y en a beaucoup. Chaque fois,
excellent.
Bon. Ben, on ne sera pas affecté par les.
Donc,
les
par contre, je vous rappelle que la façon dont c'était présenté, il y avait une porte à l'est et une porte à l'ouest, grosso modo. Vous étiez rentré par la porte ouest et vous aviez rencontré tous les monstres dont je viens de parler, hein, qui n'avaient pas, à part certains des trolls, les serviteurs humains qui vous avaient attaqué. Mais, et encore, je pense que vous les avez peut-être provoqués ou quelque chose, mais.
Ils étaient tous.
Ouais, vous les aviez zigouillés. Ils sont tous dans un état de transe, tous les autres, occupés à faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais vous étiez arrivé à la porte est, donc ça forme comme un U comme ça, inversé. Donc en rentrant par la porte ouest, et puis vous faites le U inversé, hein, et puis vous êtes arrivé à la porte est. Et là, près de la porte est, vous aviez découvert sur le puits qui permet de s'enfoncer dans le Nautiloïde. Et en fait, donc vous pouvez accéder à ce puits sans vous préoccuper de tous les monstres que j'ai rencontrés, dont je viens de parler. En fait, juste rentrant par la porte est et en tournant directement dans le puits. Ça ne présente pas de difficulté non plus.
D'accord. Ouais, mais on est en train de réfléchir pour voir si c'est mieux d'attaquer d'abord le cœur ou la périphérie, quoi.
J'avais bien compris, mais c'est pour ça que je vous redonne les données du problème.
Absolument, absolument. Poum. Et les corbeaux-garous, ils estiment que c'est fort inflammable ou pas, comme ils ont vu l'intérieur du premier étage du Nautiloïde?
Bon, ça a l'air d'être de la... Ah oui, non, mais quand je parle du premier étage du Nautiloïde, je parle du château. Hein.
Bah,
le château, il est en briques, donc...
Ouais, quand je fais d'enflammer les trucs, c'est pas la partie château, évidemment, c'est la partie Nautiloïde.
Oui, c'est ça, hein, j'avais totalement compris ça moi aussi. Moi, je m'étais dit, tu pensais aller au trou dans le sol, là, et balancer ta boule de feu vers le bas dans le Nautiloïde. Moi, c'était ma compréhension de ton idée, ce qui, pour moi, avait beaucoup de sens, quoi. Effectivement.
Faut déjà aller jusque-là, donc.
Ah oui, bien sûr. Mais bon, voilà, c'est mon idée, quoi. Voilà. Après, il faut.
Ouais, non, c'est. Non, mais sans place, quoi. Ben, soit c'est une très bonne idée, ou alors on descend encore plus profond pour voir. Tu vois, pour être sûr de maximiser les dégâts, quoi.
Mais on peut descendre après, si c'est pas suffisant, tu vois. Ouf, oui.
Ouais, aussi, ouais. Bon, bah, de toute façon, ouais, on va quand même, ouais, 24 heures, ça va, hein. On va se jeter le sort juste avant d'arriver aux abords de la forteresse et on rentre, quoi, de toute façon.
Ouais. Mmh. Ouais.
Oui, mais donc, vous rentrez comme la dernière fois, du côté ouest, ou vous allez par le côté est et vous allez directement là où il y a le shaft qui s'enfonce dans le Nautiloïde. Enfin, tout dépend que. Enfin, ça reste la même question, quoi. Est-ce que vous attaquez les créatures qui semblent être en transe dans le château, ou est-ce que vous essayez d'aller dans le cœur de la bête ou directement? Parce que de toute façon, enfin voilà quoi, les corbeaux vous le confirment, vous l'avez vécu la dernière fois que vous y êtes allé. Les créatures dans le niveau du château, si vous ne les attaquez pas vous-même, elles ne vont pas vous attaquer, elles ignorent votre présence.
Oui, c'est ça, c'est ce que j'avais compris moi.
Et est-ce que tu as des sortes de griffes de garde, Loxod, éventuellement? Comme ça, tu vois, on pourrait.
Ouais, non, j'ai pas de. Je peux faire un mur de. Je peux faire un mur de quoi? Je peux faire un mur de force.
Ce qui fait.
Alors, on va essayer d'avoir le français.
Ah. Bah, ça crée un mur impénétrable, hein. C'est pas très dur. Hein.
Alors, un mur de force invisible apparaît en un point de votre choix à porter. Le mur prend l'orientation que vous choisissez, comme une barrière verticale, horizontale ou avec des angles. Il peut flotter librement dans les airs ou s'appuyer sur une surface solide. Vous pouvez lui donner la forme d'un dôme, d'une sphère ayant un rayon de 3 mètres maximum. Ou lui donner la forme d'une surface plane constitué de 10 panneaux de 3 mètres de côté. Si le mur traverse l'espace occupé par une créature qui, lorsqu'il apparaît, la créature est repoussée d'un côté du mur. Mais c'est ce qu'on avait subi
totalement.
Ah oui.
Au combat à la fin dernière.
Ouais, ouais, c'est ça. Et tu peux pas passer.
Tu,
quoi.
Tu peux en lancer. Tu peux en lancer combien?
Selon les charges. Donc je peux en lancer 4 pour l'instant.
Mais après, son bâton est vide, quoi.
Mais après, mon bâton est vide.
Ah oui, c'est un tour de ton bâton, ok, ouais.
Mais il peut servir à ça, j'ai encore d'autres sorts pour faire autre chose, tu vois, je dis, il peut servir à ça.
Ouais, tout à fait. Parce que ce qui serait peut-être intéressant, je me dis, c'est quoi qu'on fasse, en fait, c'est d'essayer de profiter de la transe pour se créer un avantage tactique, quoi, pour pas être pris entre deux fronts et avoir pour pouvoir prendre l'avantage sur les créatures en transe, tu vois, donc peut-être puisqu'isoler les beholders ou des choses comme ce qui nous ferait gagner au moins du temps.
Oui, c'est ça. Si on a un combat où on est en sous-nom, mais qu'il faut splitter le combat en deux, ben on met un mise de force pour séparer le combat, quoi. Ça, c'est
Ouais.
possible. Mais ça peut se faire juste avant un combat, quoi.
Éventuellement, oui, ou en préparation, ça dépend un peu.
Ouais, mais on risque de bouger, tu vois. Enfin, tu vois, l'attaque n'est pas ciblée à un endroit unique et.
Non, mais comme si ça peut être une sphère, tu vois, on peut. Je sais pas la durée du sort, évidemment.
Jusqu'à 10 minutes.
Ah oui, non, oui, donc ça n'a pas grand intérêt, quoi, ouais.
Non, c'est ça, ça dure pas des heures, c'est pour un combat, quoi.
Ouais, bah ouais, forcément, pardon. Ouais.
C'est clairement utilisé pour séparer des groupes de combattants. Hein.
Ouais.
Oui, c'est ça.
Mais pendant le combat, quoi. Ah. J'essayais de trouver quelque chose pour avoir un avantage tactique
Un éboulement.
dès maintenant.
Ouais, ça paraît, ouais, je sais pas.
Mais bon.
Bombe atomique sur le château, mais. Donc, ça nous disait quoi, là? Au final, après toutes ces conversations.
Ben, on se rend au cœur du Nautilus et on casse le bâton, non? C'était
Ah,
pas
bah
ça
oui, ça me paraît un super bon plan. Et vous espérez survivre à. Et le personnage de Fabrice est téléporté en Avernus, quoi.
Oui,
Voilà.
voilà, c'est ça. Ouais. Je
Bah écoute.
Tu sais, avec des hordes de démons qui courent dans sa direction, là, comme à la fin d'Evil Dead.
Oui, c'est ça, oui. Là, cinématiquement, c'est très drôle. Maintenant, pour nos persos, un peu moins.
Bah
Give
quoi,
me my boomstick. Oh là là.
Mais je te promets que je suis au bord de la
tu
mort,
nous parlais encore
j'utilise.
de ton envie de vacances. Il fait chaud là-bas.
Ouais.
Ah.
Oh là là. Ouais.
Ok, bah, Nautilus alors.
Très bien. Bon, alors quand vous arrivez donc à proximité vraiment proche du château, je vous rappelle que les entrées sont non seulement le château est entièrement en ruine, mais donc les entrées sont couvertes de plantes qui sont extrêmement coupantes. Hein. La dernière fois, Fabrice les avait gelées pour pouvoir les dégager de la porte. Et donc vous faites ça, mais donc de l'autre côté du Nautiloïde, de la porte du château. Et donc ça donne vous la porte d'entrée, tant que vous êtes au niveau du rez-de-chaussée du château, a l'air d'une porte de donjon classique. Enfin voilà, il n'y a pas d'indication que vous êtes au-dessus d'une structure extraterrestre. Enfin, extraterrestre, on s'entend transplanaire. Ouais, vous poussez la porte d'entrée sans difficulté, et puis vous êtes dans le couloir, vous étiez la dernière fois, et donc sur votre gauche, vous aviez déjà dégagé les gardes qu'il y avait, donc ils sont plus là. Et sur votre gauche, donc il y a ce fameux puits, hein, c'est une sorte de. Enfin, en fait, c'est une cage d'ascenseur, si vous, sauf qu'il n'y a pas d'ascenseur du tout, qui plonge dans l'obscurité, dans les profondeurs. Et ça a l'air très profond, et il n'y a pas de lumière du
Ok.
tout.
Mais ça, c'est pas grave. La lumière, on peut la faire et on peut voler. Je peux faire voler 3 personnes, on peut descendre en volant. Il n'y a pas de problème. Donc, le tout, c'est de savoir quelle idée on suit. Soit on fait déjà un fireball en amorce et puis on descend, ou on descend et on voit.
Bah, si on a le sort de ce vol, on descend, on regarde. Si c'est le foutoir, on remonte et là, tu fais fireball.
Okay, on peut faire ça. Bah, écoute, je lance le sort de vol alors sur nous trois.
Ouais. Parfait, je sais même pas s'il sera nécessaire. On peut peut-être laisser tomber un tout petit truc, tu vois.
Mais c'est très profond, hein, ce que disait Jean-Michel.
Ouais. Oui, mais à mon avis, c'est... Enfin, je sais pas si c'est... Voilà, si ça réagira pour nous, mais...
Attends, très profond, ça peut pas être... Ça peut pas non, être, ça peut pas être... C'est pas... Ça peut pas être 50 mètres.
Oui, ça, j'étais en train de me dire la même chose, oui.
Puisque le nautiloïde, il a une certaine, il a une dimension, sauf si on rencontre un être extradimensionnel qui a l'habitude de plier le temps et l'espace, et qu'on s'exclame tous les trois en même temps, mais c'est plus grand à l'intérieur.
Non, c'est vrai que c'est pas grand à ce point-là, mais c'est surtout que c'est plongé dans une obscurité totale, donc en fait. Mais
je lance Fairy Fire. Je lance Fairy Fire.
Et ça fait, oui, ça fait juste des petites lumières, c'est ça. Hein,
c'est ça.
C'est un cantrip, hein. Je me souviens sûrement. Ouais, donc tu vois les cantrips qui descendent jusqu'à la pièce en dessous. Bon, effectivement, c'est un peu, c'est pas 50 mètres, ça c'est sûr. Hein. Je sais pas, ça doit être maximum une dizaine de mètres. Ouais, les petites lumières descendent. Ah, attends, Fairy Fire, ça fait du bruit ou pas?
Est-ce que ça fait du bruit?
Bon, j'imagine que non, mais...
Je pense pas, je vais vérifier, attends.
Là, je suis en train de regarder déjà.
Où est-ce qu'ils sont, mes sorts?
Ah oui, non, en fait, c'est même pas ce que j'imaginais du tout. Is a spell that cause each object in a 20-foot cube within range to be outlined in blue, green and violet light.
Mais bon, moi, je peux voir dans le noir, normalement. Hein.
Ouais, de toute façon, en plus. Hein.
Donc, ce que je vais utiliser, c'est... Écoute, restez en haut, je descends, je vais voler tête en bas là, et je vais, quand j'émerge en bas, je vais juste faire dépasser ma tête, et je regarde comme Spider-Man du plafond, et je regarde ce qui se passe dans la pièce. Et alors, si je dis que c'est clear, qu'est-ce que je ferais? Si c'est 10 mètres, il suffit de faire pss, pss. C'est bon, ils m'entendent. Hein. Donc, l'oublie le cantrip. Je vais descendre en sneaky.
Ça marche.
En sneaky volant et hop. Je regarde.
Ouais, donc tu je sais pas, t'accroches une corde et puis tu descends en rappel.
Mais non, on vole.
Ah oui, il a le sort de. Oui, c'est parce qu'il t'a lancé le sort de vol finalement.
Ouais, on vole. Je vais voler tête en bas. Mm-hmm, et quand tu vois, quand j'émerge, quand j'arrive en bas, je vais juste dépasser ma tête, comme si j'émergeais d'un trou dans le sol, mais c'est au plafond, quoi.
Ok. Quand t'arrives en bas, tu entends des grognements. Tu sens qu'il y a des créatures autour de toi, et puis tu les vois, c'est des créatures humanoïdes avec armées de masse, je sais pas si j'ai essayé de l'afficher le dessin, mais je sais pas si vous voyez.
Ouais, je vois.
C'est des ouais, c'est pff, ils portent juste un cache sexe comme ça, et ils ont une sorte d'ossement en main,
pagne.
Comme un pagne, ouais, très bien.
Et un cache sexe, c'est autre chose, mon chouchou. ils vont croire qu'on fait du AD&D.
Et c'est un nightclub, c'est ça, en fait. C'est un nightclub.
Un nightclub d'un certain genre.
Oh, vous avez les idées plus tordues que moi, mais t'as raison, le mot m'échappait, c'était un pagne, c'est ça, quoi. Et ils ont l'air très, très brut, comme ça, très bête. Bon, évidemment, vous avez l'impression, enfin, ton impression, je pense pas que tu sois Ah, mais si, t'es un drow, hein, c'est ça, oui. Donc,
oui.
Tu connais les élites. Oui, donc c'est des serviteurs des drow, hein, c'est des, comment ils s'appellent, ces machins-là? C'est des Grimlocks. Et donc les Grimlocks, c'est des créatures au service des Drow. C'est leur première liste au service des Mind Flayers. C'est leur première ligne de défense. Ici, on a 6. Maintenant, ce ne sont pas des adversaires très coriaces, mais évidemment, voilà quoi, ils sont là plus pour sonner l'alerte qu'autre chose.
Donc il faudrait les il faudrait qu'ils soient
Et ils sont aveugles. C'est pour ça qu'ils sont dans l'obscurité totale. Moi, toi, tu le saurais. Hein.
Ouais, moi je le sais. Mais ça veut dire qu'ils ont l'ouïe surdéveloppée.
Exact.
Et donc ça veut dire que j'étais en train de me dire, on va leur faire un immense bruit. Ils vont être sonnés, on va pour les zigouiller, mais ça, ça enlève le
de pas attirer l'attention. Ouais.
Voilà. Ok, je remonte, je fais le rapport. L'Oxod, t'as pas un sort de d'endormissement ou un truc comme ça?
Non, pas ça.
Comment tu les avais appelés?
Grimlocks. Grimlocks.
Grimlocks. Est-ce que j'ai des Grimlocks 175. 175.
Ah oui, non, je pense pas. Ils ne sont pas dans le monster de base, ouais. Je pense pas que tu les auras, Grimlocks.
Je les ai.
Non, j'ai pas de sort de sommeil, non, désolé.
J'ai le monster manuel avec Grimlocks.
Ouais, mais lis pas toutes les caracs, hein.
Ouais, mais je devrais. Si je suis un drôle,
tu devrais être familier.
Je devrais être familier avec ça.
Ouais, dans ce cas-là, à la limite, ça, ouais. Comme je te l'ai dit, de toute façon, ce ne sont pas des adversaires très très puissants, mais vous devriez pouvoir vous en débarrasser très rapidement. Mais ouais, ils sont mais là pour garder l'entrée, en fait. Ouais.
Et ils font du bruit. Et ils font du.
Ouais.
Je peux immobiliser plusieurs humanoïdes, mais je ne peux pas les endormir. Je sais immobiliser.
Question technique, est-ce que leurs cordes vocales sont sont immobilisées aussi ou pas? Dans ta pratique de magicien, qu'est-ce que t'as remarqué?
Bah, si on peut dire qu'elle est paralysée, enfin, on dit qu'elle est paralysée, donc tu es paralysé totalement quand t'es paralysé. Tu vois, t'es censé pouvoir bouger ta langue ou tes cordes vocales si t'es paralysé.
T'as jamais eu de plainte d'un humanoïde sur lequel t'avais jeté le sort pendant le sort, quoi. En non. Gros. Bah voilà, ok, c'est parfait.
Vous faites.
Donc je peux en immobiliser 4. Pas beaucoup, mais.
Ah, c'est déjà bien. Et il y en a
6.
6.
Et immobiliser pour combien de temps?
Donc chaque tour, ils peuvent faire un jet de sagesse.
Ils doivent pas avoir un score de sagesse monstrueux. Oui,
je me dis ça va. Ouais,
donc ça doit être 10 tours. Une minute, c'est 10 tours, hein, c'est ça, je crois.
Ok, voilà. On peut tenter ça, on peut tenter ça. Mais après, il faut que moi je m'en occupe d'un et que
ouais,
Moonscale un chacun quoi.
Ouais, exactement.
Je vais juste regarder, attends, si je peux utiliser la métamagie pour augmenter ça ou pas. Attends.
Bon, ils sont pas susceptibles au. Comme ils sont aveugles, ils sont pas susceptibles. Ils ont peur de rien, en gros. Ils sont pas très malins, mais c'est leur un des inconvénients, mais ça veut dire que ils sont un peu trop stupides pour être courageux. Mais quand ils sont en groupe comme ça, ils vont attaquer en groupe. Il faut vraiment les
par,
éliminer
par rapport vite. par rapport au comportement, de toute façon, toutes les créatures de ce type-là dans le Nautil sont sous le contrôle télépathique, sous l'emprise télépathique des Mind Flayers, donc leur comportement naturel ne s'applique pas, quoi. Ils sont programmés, entre guillemets, pour défendre à tout prix le Nautilus, le Nautil.
Non, la métamagie ne m'aidera pas.
Ouais. Bah, alors moi je dirais idéalement, l'Oxod descend en premier. Il lance son sort sur les quatre qui sont le plus éloignés en fait du puits par lequel on descend. Moi je passe après parce que je serais un plus lourd et moins agile en fait que Gwendaïr.
Oui, moi je devrais passer en premier, je vais me mettre derrière un. Moi, je peux le faire en sneaky, quoi. Je peux sneaker jusque là, en plus en vol, il m'attendra pas. Je me mets derrière lui, en
ouais.
position pour le zigouiller en un round.
À fond, on fait ça, ouais, c'est très bien.
J'ai encore une autre solution. Je peux partir en haste et je peux utiliser deux actions, donc je peux lancer deux fois le sort. Donc je peux aller jusqu'à 8.
Ah ouais. Faut pas non plus que tu consommes tous tes sorts, on va en avoir besoin.
Pour une fois que je peux utiliser plusieurs sorts, il m'amuse un petit peu. Tu vas m'irriter.
Non. Mais quand tu seras devant le Mind Flayer et que tu auras plus que Fairy Flyer qui fait des jolies petites lumières.
Tu lui as pris un bouquet de fleurs.
Ce sera mon champ du signe, je ne sais pas moi.
Et si tu le sens bien, moi je veux bien, hein, moi j'ai pas de problème. Hein, si tu veux leur foutre la branlée magistrale, go quoi. De toute façon après, ouais. Une fois qu'ils sont immobilisés, c'est squeak. On les zigouille et puis c'est fini quoi.
Je peux même la faire en cinématique, tu vois, je suis la tête à l'envers, je descends rapidement et je fais.
Ah ouais.
À la style. Hein.
À la style, ouais. Avec une musique sinistre et dark, tu émerges à l'envers du plafond et puis la caméra fait une rotation pour que le plan du personnage du spectateur se rejoigne à toi et eux ils sont à l'envers comme suspendus par le plafond mais ils sont vraiment au sol puis raf, immobilisés
exactement.
Et après, tu vois juste l'ombre de Moonscale qui passe direct et que tu entends juste que tonk, chaque fois la masse d'armes ou l'épée qui craque un crâne.
Donc, ça va. Donc, je fais ça. Donc, je fais haste et je lance deux fois le sort au niveau 5 d'immobilisation. Comme ça, je prends les 6.
Ok, ça marche.
Ils doivent tous faire un jet de sauvegarde charisme à 16.
Ouais, avant que tu lances ton truc, je vais quand même aller en...
Ça, c'est l'idée, oui, voilà, c'est l'idée, voilà.
Je vais...
Oui. Au cas où.
Et j'aimerais bien retourner en bas, Jean-Michel, et voir s'il y a... Est-ce qu'il y a une mallette, un bouton ou quelque chose dans la pierre ou qui permettrait de... qui leur permet de... déclencher l'alarme ou une cloche ou enfin une cloche excuse-moi un truc qui fait du bruit quelque chose un mécanisme qui permet de déclencher l'alarme ou pas.
Oui, tu vois que sur la paroi il y a une sorte de sigil comme ça qui te semble assez j'ai l'impression qu'il pourrait appuyer dessus pour déclencher une alarme, effectivement.
Ok, alors je vais me mettre là, et si jamais il y en a un qui n'est pas, je vais me mettre proche de ça dans un coin d'ombre. Bah non, ça, je m'en fous, il voit rien. Je vais me mettre proche de ce truc de telle manière à ce que si jamais il y en a un qui réussit son jet de sagesse et qui arrive à passer, bah, je m'en occupe, quoi.
Cool, ça marche. Oui, tu me disais, Fabrice, il faut que je réussisse.
Donc, j'ai de sauvegarde à 16 en sagesse.
Difficulté 16 en sagesse. Ok.
Pour chacun. Chacun y a droit.
Ok, bah, quand tu lances ton sort... Ils sentent tous un peu bizarre et puis tu les immobilises. Il y en a un qui effectivement qui a résisté à ton sort et qui se rue vers le bouton dans la direction de Gwendaïr pour essayer de sonner l'alarme.
Et dans le noir, il rencontre la pointe de ma lame et il s'enfonce tout doucement dans ma lame.
et les autres sont tous immobilisés. Ouais, je sais plus ça dure combien de temps, mais enfin bon, ils sont incapables de bouger.
10 rounds, donc on peut ouais, enfin se lever pendant 10 rounds. Enfin, on peut les tuer avant 10 rounds.
Ils essayent de se débattre, mais ils sont incapables de sortir des sortes de liens dans lesquels tu les as enserrés. Ok, ça marche. Vous pouvez descendre dans cette pièce et je suppose les écouiller si c'est ça que vous voulez faire, j'imagine, ou les assommer. Ça dépend, il y a un paladin dans le groupe. Donc...
Ce sont des êtres vils, paladin. Tu peux les écouiller sans aucune... Il est toujours avec nous ?
Oui, absolument. Oui, non, mais écoute, pour des créatures des tréfonds obscurs, je sais pas. Je pense pas que j'ai trop de...
Ouais.
De scrupules.
Bah, ouais, ok. Je suis quand même aussi une créature du tréfonds obscur, donc.
Ouais, c'est ça, quoi.
Dans la limite du possible, si je te dis que ce sont des mauvaises, t'y vas, quoi. Mais bon. On n'est pas tous mauvais, hein.
Tu vois.
Bien sûr, Gwendaïr. Bien sûr.
En fait, le paladin, il attend que vous ayez fini la campagne, et puis après, il va attaquer le drop pour le zigouiller. Maintenant que t'as été utile aux forces du bien, c'est bon. Il est temps de rejoindre ton
drop. Il y a un drop de, comment il s'appelle cette, je suis pas un drop de Lot, hein. Je suis un drop de Lot.
Ah oui, c'est le Darine.
Ouais.
Oui, mais c'est vrai que la nuance est importante, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que les drops, il y a que des drops, à la Driss d'Ogden et machin.
Non, ils ont changé ça. Ils ont changé parce que voilà, tout le monde a envie de jouer des drôles. Donc très bien. Écoutez, vous descendez, donc vous éliminez les gardes qu'il y avait, et effectivement, donc maintenant vous êtes à l'intérieur de clairement le Nautil. Donc la paroi n'a plus du tout l'apparence d'être d'un château. Hein, c'est quasiment une composition un peu organique comme ça à l'intérieur. Enfin, c'est les Mindflayers, les flagelleurs mentaux étant des créatures qui traversent les plans d'existence. C'est pour vous, c'est comme si vous étiez dans un vaisseau extraterrestre. C'est de la technologie vraiment extrêmement bizarre et étrange. Et donc la structure de la à l'intérieur de la structure où vous êtes, c'est une pièce ronde, et en fait tout est rond à l'intérieur parce que vous êtes dans la carapace du Nautil comme ça, donc tout est rond, et vous avez donc un couloir qui monte vers le nord et un couloir qui descend vers le sud, mais ils sont tous les deux incurvés. Parce que en fait, ils font former un énorme cercle comme ça, avec chaque fois des pièces le long de la structure, si vous voulez. Donc, je vais le redire autrement. Vous êtes dans une pièce sphérique qui est elle-même à l'extrémité ou sur la circonférence d'un autre cercle que compose le couloir en réalité. Je sais pas si c'est clair ou pas. Pour l'architecte, ça va, mais pour Raphaël, ça, et Fabrice.
Pour ceux qui ont joué, moi j'ai joué à Baldur's Gate le dernier, donc je sais à quoi ressemble.
Ouais, moi par contre, j'ai pas joué à Baldur's Gate, donc en fait, moi je me base purement sur les informations que j'ai dans les livres de Donjons & Dragons.
Oui, mais c'est pour l'idée.
Ça match ou pas Baldur's Gate, plus ou moins, forcément, ça va.
C'est surtout Baldur's Gate qui match à des Dungeons and Dragons à la lettre.
Oui. Donc, je veux dire, voilà, je vais certainement décrire les choses légèrement différentes, etc. C'est pas grave, c'est une autre variété de...
Cherchons une porte. Y a-t-il une porte dans cet endroit où on est?
Oui, mais tu vois, je veux dire, les couloirs, de toute façon, oui, en fait, donc il y a chaque fois, il y a des portes, en fait, qui donnent sur les couloirs qui permettent de monter. Donc, en fait, le choix que vous avez, c'est de monter au nord ou de descendre au sud. Je suis en train de dire ça, mais une seconde.
C'est en trois dimensions, en fait. On est dans la coquille d'un escargot géant.
Oui, c'est ça, exactement, c'est totalement ça. Et alors, toi, comme t'es le voleur et que tu cherches en appuyant sur une des plaques sur le mur, tu ouvres une porte et en fait, ça donne juste sur une pièce contiguë à, périphérique à la porte. Oui, c'est des...
c'est des espèces de sphincters.
Oui.
C'est organique.
Tout est organique, oui. Tout est... J'ai dit que tout était organique dans le vaisseau. Oui, oui, c'est des espèces de
sphincters. Oui, est-ce que c'est humide? Est-ce que c'est slimy? Ou pas?
Mais bref, de toute façon...
Attends. Est-ce que c'est humide? Est-ce que c'est fort humide?
Oui, je pense bien, oui.
Ok, alors ta boule de feu, je ne crois pas qu'elle va servir à quelque chose. Par contre, des sorts de glace, sur de l'organique, ouh, ça fait bien mal, ça.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, effectivement, oui, c'est important.
Parce qu'en fait, si on est dans un organisme vivant, il va y avoir des veines, il va y avoir des fluides qui se déplacent dans les parois. Si on commence à foutre le souk avec ça, l'animal, il va pas se sentir bien. Il faudrait trouver le cœur du corps, le cœur du nautiloïde pour et à ce moment-là, peut-être dans le cœur, on lui met un grand coup de boule de feu. Ça peut faire très 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 mal. S'il décolle, on est dedans, on va être mal.
Enfin bref, tout ce que j'étais en train de dire, c'est que ce que tu avais découvert, c'était juste une petite pièce adjointe contiguë où en fait il y a des lits pour les Grimlocks que vous venez de tuer en réalité. Et donc là où vous le choix que vous allez, c'est de monter au nord ou de descendre au sud. Ouais.
Vu la configuration, on n'a pas une notion d'avant en arrière. Enfin, tu vois, c'est difficile à déterminer, je sais. Mais est-ce qu'il n'y a pas une vision qui, enfin, est-ce que les couloirs se rétrécissent au fur et à mesure qu'on avance ou s'élargissent? Enfin, tu vois, je sais pas.
Ouais, je comprends. Mais l'astuce, c'est que oui, enfin, tu peux dire que le nord est l'arrière du vaisseau et que le sud est l'avant du vaisseau. Mais l'astuce, c'est que le draw du groupe doit savoir que les Mind Flayers fonctionnent pas comme ça. Hein. Ils sont contrôlés par un cerveau central qui va être au milieu de la structure de toute façon.
Ouais.
C'est un énorme cerveau qui est. c'est un énorme cerveau. C'est là qu'il y a aussi les cuves avec les tadpoles pour convertir les gens. Là, les sortes de enfin des tadpoles. Donc en français des
parasites.
Ouais, des sortes de parasites comme ça. Donc, il y a le cerveau qui est là et différentes cuves avec les différents parasites s'ils veulent infester les gens. Ouais. Ouais, donc, en fait, ouais, je cherche le nom exactement, mais enfin, il s'appelle. Ouais, enfin, de toute façon, c'est un gros cerveau comme ça. Il sera au milieu de la structure. J'imagine que Quendair devrait le savoir. Hein. C'est comme ça que fonctionnent les Mind Flayers.
Ouais.
Mais donc, s'il contrôle le vaisseau, le centre névralgique, enfin, tu vois, imagine que.
Voilà, le nom, c'est Elder Brain. Le Elder Brain, l'ancien, le cerveau ancien.
Ouais, j'imagine que si tu as un cœur, tu as des artères et des veines, tu vois, en déterminant peut-être l'infrastructure de nous, si on est au niveau des artères ou des veines, tu vois, c'est un peu ça l'idée que je cherchais.
Ouais, ça a du sens, ouais. Tu penses que. Oui, t'as l'impression que enfin, ton instinct dit qu'il faut mieux à ce moment-là remonter vers le nord et que ça devrait. Enfin, ça dépend ce que vous recherchez, mais si vous allez vers le nord, ça va vous conduire vers les zones d'accès au cerveau, au Elder Brain.
C'est ça qu'on doit.
Si tu regardes les parois, que tu t'observes et tu regardes vers le où se dirigent les circuits organiques du vaisseau, c'est dans cette direction-là que ça va.
Ouais, c'est ça. Ok, c'est ça que je cherche.
Ouais, je vois. On est vers le nord, là.
Ouais, cap au nord.
Très bien. Ok. Oui, vous arrivez devant un des nouveaux sphinxters, comme dirait, qui donne sur une pièce suivante. Avant de l'ouvrir, de toute façon, Gwendalir, tu dois entendre qu'il y a de nouveau des grognements de l'autre côté. Dans la pièce suivante, tu penses qu'il y a de nouveau des Grimlocks au minimum. Et si tu tends l'oreille, tu entends peut-être des pas d'autre chose, mais tu sais pas trop ce que c'est.
Oh, joie.
Alors la question maintenant on va se poser, c'est est-ce qu'on prend tout le monde de front ou est-ce qu'on sépare le combat en deux? Ça, on peut faire ça plus tard aussi, prendre tout de front.
Mais s'ils sont de l'autre côté, tu vois, notre astuce qu'on a fait précédemment ne marchera pas. On va ouvrir la porte et ils seront là, quoi.
Bah alors j'ouvre la porte, je fais boule de feu, je referme la porte.
Ouais. Et à ce moment-là, on passe en mode, on court. Si. L'alarme va être déclenchée là.
Bah, ouais, s'il y a des survivants.
Ouais, au rythme où j'en suis, attends, est-ce qu'on a un autre moyen de savoir ce qu'il y a de l'autre côté ?
On n'est pas accompagné, on n'est qu'à trois. On n'a pas de garou transformiste avec nous.
Non, il y a que vous. Comment, ouais, enfin, tu penses, si tu tends vraiment bien l'oreille, tu penses qu'il y a effectivement au moins des Grimlocks. Et tu penses qu'il y a aussi, ce que tu avais du mal à identifier, ça ressemble à des pas de chien, donc tu penses que c'est ces gros cerveaux là avec qui ressemblent à des canidés mais sur pattes quoi. Ce sont les animaux de compagnie des si on peut dire des Mind Flayers. Vraiment, ce sont vraiment. Non, je suis en train de regarder des illustrations, mais c'est vrai que ils sont vraiment les animaux des compagnies des Mind Flayers.
Oh, en tout cas, les cerveaux, les petits cerveaux sur pattes là.
Ouais.
Des.
Ça s'appelle des intellect devour, des dévoreurs d'intelligence.
Ah oui, les dévoreurs d'intellect, j'adore ça, c'est craintif.
J'adore ça.
Je les trouve géniaux.
Au fait, vous avez lancé le sort hein, de Mordenkainen, hein, le ouais. Mind blank des phases d'esprit. Hein, ouais, parce que ça, oui, le draw saurait que c'est quelque chose qui fait des attaques psioniques.
Hein. Ouais.
Non, l'idée, c'était effectivement de l'utiliser en rentrant.
Bon. On passe en mode de...
L'idée de Fabrice, vous ouvrez la porte et il balance une feuille de une boule de feu.
Bah, de toute façon, si on veut éviter qu'il donne l'alerte, que c'est le seul
peut-être
attrait vers le cœur.
Peut-être que tu ouvres la porte, on regarde et s'il commence à courir dans tous les sens.
Il faut que tu puisses regarder, trouver où se trouve le bouton d'alarme et je lance la diagonale. Enfin, tu vois, je cible le fait qu'elles vont se déplacer vers ce côté-là et je lance la boule de feu plutôt dans cet environnement-là plutôt que de l'autre côté de la pièce, par exemple. Tu vois, je sais pas.
Ok, on fait ça.
Attendez, j'ai pas tout de suite parce que j'étais en train de regarder autre chose. Vous pouvez me redire ça?
Donc, on ouvre la porte. Moi, je regarde où est le glyphe, où il y a le bouton d'alarme.
Ouais.
Et si jamais, en tous les cas, l'Oxod prépare son sort pour balancer dans cette direction-là, s'il est ces bestioles qu'on a vues se dirigent vers le bouton d'alarme. Mais moi, je dirais, si jamais il bouge pas. Alors peut-être on opère autrement, mais je sais pas. Comme je sais pas ce qui est derrière la porte, je peux pas deviner ce qu'on va.
Non.
Est-ce qu'on va réagir.
Comme tu devinais qu'il y avait des dévoreurs d'intellect, de toute façon.
T'as coupé. On
aveugle non plus donc.
Ouais, t'as coupé un peu. Ouais. Ouais, on n'a pas bien compris ce que t'as dit parce que ton son a coupé. Vas-y.
Désolé. Non, je disais comme il y a des dévoreurs d'intellect, eux ne sont peut-être pas aveugles en fait de toute façon. Donc à partir du moment où on ouvre la porte, je pense qu'on a intérêt à balancer, comme dit Loxot quoi.
Mais en fait, les dévoreurs d'intellect, ils ne sont pas dieux. Hein. Ils détectent les autres êtres vivants via leur via purement leur les ondes cérébrales et des trucs comme ça, enfin le côté psionique des choses. Donc peut-être que du fait qu'on a le sort, ils ne savent pas nous détecter en fait. Faudra qu'on essaye.
Ça c'est sûr. Ouais, je pense que
si on est invisible pour ces gens-là, bah autant en profiter. Hein. Les seules bestioles qui peuvent nous détecter, les précédentes, ils peuvent les détecter parce qu'ils utilisaient le son et l'odorat. Mais les Mind Flayers, ils utilisent uniquement les ondes cérébrales, le fonctionnement du cerveau, quoi.
C'est-à-dire, réfléchissant maintenant, je veux dire, la boule de feu, c'est trop ciblé, en fait, tu vois. Il faut, voilà. faut que je fasse un dégât de zone, en fait, plus. Donc, c'est genre plutôt un cône de
feu. Une boule de feu dans une pièce aussi petite. Ouais, ce sera un dégât de zone.
Ouais, c'est un dégât de zone que tu fais. Ouais. Je pense pas que ce sera un problème, par contre. Parce que c'est,
un cône, ça peut faire 18 mètres. Tandis que la boule de feu, c'est 6 mètres, tu vois.
Oui, mais on n'est pas dans des pièces gigantesques, hein, on est dans un vaisseau spatial, quoi, tu vois. Donc,
ouais, ok. Ça
marche. Donc, à mon avis, tu fais un dégât ciblé et un dégât de zone en même temps.
Ouais, ok.
Et la personne qui reçoit le dégât, il fait bobo. C'est combien? 8D8? Un truc comme ça?
8D6, la boule de feu.
Ouais, ça fait mal, 8D6.
Ah, ça, je crois bien croire que. Ok, donc vous ouvrez la porte, le sphinxter s'ouvre et donc vous apercevez à l'intérieur, il y a effectivement quatre brutes là, Grimlocks. Il y a quatre de ces cerveaux qui sur pattes qui sont en train de gambader un peu partout et au milieu il y a un jeune Mind Flayer qui est en train de léviter et dès qu'il vous aperçoit, il donne l'ordre aux monstres de vous attaquer. Ils se tournent tous dans votre direction et se préparent au combat.
Et là, la boule de feu fait
ça. Ça, c'est parfait. Oui. Ça, c'est parfait. Voilà. C'est simple et efficace.
Donc, pour la boule de feu, tu me fais les dégâts et puis...
Donc, en fait, ils ont droit à un jet de dextérité pour voir si c'est demi-dégâts ou full dégâts.
Ouais, évidemment.
Ouais, mais ça sous-entend qu'ils savent éviter la boule de feu. Ils sont dans une pièce où ils savent aller nulle part.
Ouais, c'est ça, quoi.
Donc.
Ouais, ça, c'est la discrétion du MJ. Voilà.
Ouais, c'est la discrétion du MJ. Bref. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, ils devraient avoir un dé de désavantage, un truc comme ça, pour dire, ils ont du mal à se mettre à l'abri, quoi. Ouais. Mais, on va voir de toute façon. Et c'est un jet de dextre. Hein.
Ouais, ouais, c'est ça.
Difficulté combien?
Oui, conne, profusion. Bon, ça c'est l'autre. Bon. Bah, c'est 16. C'est 16, celui-là.
Okay. Ouais, fais-moi les dégâts.
Alors. J'ai pas autant de D6 si j'en ai. Attends,
c'est un bon problème à avoir, ça de pas avoir assez de dés, quoi.
Ah, ça.
J'étais pas préparé à avoir des boules de feu, c'était pas mon perso de base.
Ah, c'est clair.
Attends, je relis juste pour être sûr. Alors, papam. Oui, D6. Alors, 10, 16, 16 et 12, 28, 30, 34. Pour chacun.
Ok, donc d'office, tous les Grimlocks meurent. Aucun des autres ne meurt. Par contre, il y a des dévoreurs, il y en a quand même pas mal qui se prennent beaucoup de dégâts, hein, qui sont très amochés. 34, hein, donc ça fait.
Par contre, il n'y a pas d'aggravation au tour suivant, c'est juste un simple dégât, parce que parfois. Je sais pas s'il y a des sorts qui existent à ADD, mais il me semble qu'il y en a qui existent à Donjon où si chaque tour, ça continue, t'as des dégâts amoindris, mais sinon.
Ouais, donc ils essayent tous de se jeter sur les côtés, mais les Grimlocks sont complètement désintégrés, ils crament, il en reste que des squelettes. Et les dévoreurs mentaux, il y en a qui sont très amochés. Et même le flagelleur mental a l'air assez perturbé par ce que vous venez de faire. Vous pouvez faire le jet d'initiative maintenant. Là, vous aviez la surprise, mais...
Et donc, les objets inflammables, ben, qui sont pas apportés ou transportés, ils sont enflammés aussi, quoi. Ouais. Donc, il n'y a pas que les créatures, mais tout ce qui est autour. Aussi. Le phrasé du texte n'est pas très clair, mais voilà.
Ouais, bon, ça, c'est pas nous.
Alors... 17 pour moi l'initiative.
Dis donc, pas terrible ça. 6.
Ok.
6. Ah ouais.
Comment,
ouais.
T'as fait quoi attends, 6 en.
J'ai fait 3.
Et t'as plus 3 en bonus d'initiative.
Ouais. Ouais. Bah oui, oui, parce que bon.
Ok, 15. Moi, j'ai fait 15.
Non, je suis premier. Oh, allez. Fiesta ou quoi?
J'ai fait que 10.
Ça n'arrivait. Je crois que c'est la première fois de. C'est la soirée de Fabrice, là, je crois que.
Oui, ouais, tout à fait.
Une belle mort matin. Une belle mort matin.
Ok, donc en fait t'es pas le plus rapide parce que c'est le Manflayer le plus rapide.
Ouais, non, j'imagine, mais.
Mais bon, malgré tout. Alors le Manflayer, en fait, ce qu'il essaye de faire logiquement, c'est de faire une attaque psionique, hein, un Mind Blast, qui se concentre très très fort et qui projette. Et vous sentez une sorte de frémissement dans votre esprit, mais grâce au sort de Mordenkainen.
Ça picote.
Et ça picote, mais ça vous affecte pas, quoi. Et il est tout surpris, il comprend pas. Enfin, autant qu'un Mind Flayer peut exprimer de la surprise. Il a des tentacules qui frétillent un peu bizarrement, mais il comprend pas pourquoi ça ne vous affecte pas. Et alors après
moi,
ça.
Alors moi, je fais semblant, je me prends la tête dans les mains, je fais, ah! Et puis du coin de l'œil, je regarde et je fais un doigt, je dis, tiens. Je me jette dessus.
Ok.
Sushi time.
Ouais, parce que c'est une attaque qui ferait 4d8 plus 4 dégâts. Hein. C'est vrai qu'à
aucune difficulté,
ça fait très mal.
Mal.
mais donc là, c'est réellement à l'Oxode d'agir. Ouais.
L'Oxode.
Je fais un suplex. Comme je suis le dernier, j'ai le temps de réfléchir à ce que je vais faire.
Ah ouais, excellent. Là, tu l'as assuré maintenant.
La pression. Hein. Tu peux passer ton tour, hein, c'est pas interdit.
Oui, c'est mais ça, oui, bien sûr.
Agrippe-le et fais-lui un suplex arrière. Tu pèses genre, il doit peser 30 kilos tout humide. Chope-le. Défonce-le.
Non, il va se prendre un lightning bolt dans la face. C'est bien gentil. alors, le sort. Ah, c'est la même chose, mais ciblé sur une seule personne. Oui, ok, d'accord. C'est la même chose.
Ah.
Donc, un jet de dextérité.
Ah, d'accord.
Sinon, c'est full ou...
Ouais, bien, bien. Écoute. Et alors, dis-moi les dégâts.
Alors, 11, 17, 21, 27, 30, 31. Okay. Sympa ce bâton!
Ça te plaît bien, ça, maintenant. T'as des personnages les plus puissants du monde. C'est la revanche de Fabrice, là, maintenant. En tout cas, t'as fait très, très mal à Lilith. Hein. Très bien. Et maintenant, on est chez Gwen.
Ah, et j'espère qu'on a pris de la bonite séchée avec, hein, parce que.
Honnêtement, c'est un apprenti Mindflayer, hein, donc c'est pas le Mindflayer le plus puissant qu'on puisse avoir dans les caractères, mais vous l'avez presque tué là, il est presque mort. Bah, c'est vrai que comme il a pas pu faire son attaque mentale, pour toucher son, son sa classe d'armure, c'est 15.
Donc là, j'ai fait 26 et les dégâts. Je vais utiliser ma rapière magique. Hein. Un D8 plus 4.
Ouais, c'est bon, tu t'as pas même, ouais, c'est, on est bon. Ok, ouais, tu peux décrire comment tu le tues, là.
Ben, je me jette dessus avec toute la hargne, parce que je sais à quel point ils sont, c'est l'ennemi juré d'Enro, donc.
Ah ouais, ça...
Et comme il est surpris, je suppose que ses tentacules sont en position de, tu vois, en, un peu en l'air, comme ça, tu vois, devant lui, avec ses mains, en, du genre, oh merde, oh merde, oh merde, il s'est déjà pris un lightning bolt. Et donc, je fais quatre passes avec ma rapière et je lui coupe les quatre tentacules. Chouk, 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 et je termine par en enfonçant la rapière dans le crâne.
Très bien.
À la fin de l'envoi, je touche. Connard.
Ok.
Sushi donc... time. Je m'exclame en draw la phrase qu'il faut dire à chaque fois qu'on assassine un... un mind player, sushi death.
Très bien. On est chez Raph alors. Et donc il reste 4 des dévoreurs intellectuels.
Ouais, parfait. Et c'est pas eux de jouer avant moi vu mon petit score.
Non, ils ont fait 3 eux.
Ah non, parce qu'on
j'ai fait encore un plus mauvais score. Ah, ouais, j'étais complètement. Non, j'ai fait. Je crois que j'ai fait 1 au dé. Ils avaient plus 2 quoi. Bref, et j'ai complètement foiré le dé. Donc non, t'agis d'abord.
D'accord. Pas de souci. Ben, je regarde s'il y a aussi un sigil sur une des parois ou pas.
Oui, ici, il y a totalement un sigil sur une des parois, mais de toute façon, les chiens, là, c'est des sortes d'animaux, comme ça, ils vont pas essayer d'aller sonner l'alarme comme ça. Ils sont juste vraiment concentrés sur le fait de vous attaquer et de défendre. Ils sont pas contents que leur maître se soit fait tuer, quoi.
Ouais, donc ça sert à rien que je fasse rempart, quoi. Bah, du coup, je frappe le premier, déjà. Plus proche.
Ok.
Alors, combien pour les toucher? Ah ben, on n'a pas encore dit pour les dévoreurs.
Oui, c'est ça.
Ils ont quoi?
Juste une seconde, ils ont tac, ils ont classe d'armure 12.
Ah bah heureusement. La première passe, donc le premier je lui fais ok, c'est ici. Quatorze points.
Ok. Oui, donc celui-là, il est mort, ouais. Il était super, déjà très endommagé par la boule de feu. Hein.
Ouais, parfait. Et donc, j'attaque le. J'utilise ma deuxième action d'attaque pour attaquer un autre.
Ouais, très bien.
Et alors là, ça passe sans problème. Et là, en dégâts, je fais la même chose, 14 aussi.
Ah, nickel. Bah, écoute, il est mort aussi, puisque ils étaient tous les deux endommagés. Très bien. Et donc, c'est aux intellects d'Ever d'agir. Donc, il en reste 2 qui sont vivants. Donc, il y en a un qui va se jeter sur Gwendayr, qui vient de tuer son maître. Et l'autre qui va se jeter sur le sorcier du groupe. Il faut une attaque avec des claws, donc des griffes. Donc d'abord pour Gwen, le premier, ça touchera pas. De toute façon, il a fait 10. Et alors, après avoir essayé de t'attaquer avec ses griffes, il va faire... Ah oui, de toute façon, oui. Donc en fait, il fait une attaque psionique, mais vous êtes immunisé, donc ça ne fonctionne pas. Très bien. Et donc, l'autre va attaquer... Fab, décidément, j'ai fait encore 9. Ça fait 13, 14. Ouais, non, ça ne touchera pas. Fab non plus.
Non, j'ai 17 maintenant.
et donc, je pense que l'Oxod va pouvoir achever les deux chiens qui restent.
Ça marche.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est juste. Ouais.
Alors. Ah oui, donc je peux taper avec en faisant un power strike. Donc je rajoute un D6. C'est ça. Donc. Ok. Je fais que 14 pour toucher. Je ne sais pas si c'est assez.
Ils avaient combien? Ils ont 12. Ouais, ça passe.
12. Ok.
Si vous le savez pas, pendant qu'il réfléchit à son truc, je peux pas le faire vu que vous êtes immunisé pour un jour pour les pouvoirs psychiques. Mais l'attaque des dévoreurs d'intellect, c'est qu'ils font, enfin, une attaque psionique. Si vous échouez votre jet de défense, vous êtes paralysé pendant un round. Et puis, à un round suivant, le chien essaye de vous faire une attaque, deuxième attaque. Et si celle-là réussit, ça détruit votre cerveau à l'intérieur de votre boîte crânienne. Et puis, il rentre à l'intérieur. Il se téléporte à l'intérieur de la boîte crânienne de la personne dont il vient de détruire le cerveau et il contrôle le corps de l'autre. D'où leur nom.
Sympathique.
10 bon, points. Vous auriez réussi des jets de sauvegarde.
Oui, pas sûr.
Ok. Ouais, celui-là, il n'est pas encore mort, donc il en reste toujours deux. Ouais, ils sont sous point. Et il reste alors... on est chez Gwen, ouais. On te disait qu'il y avait deux intellects dévoreurs que tu devais terminer, là, abréger leur souffrance.
J'ai pas tué le mien.
Ok, bon. Un attaque. Donc, j'ai fait 21 au toucher. Et c'est un D8 plus 4, donc 5. Premier, je fais 9 de dégâts.
Ouais, il est mort, ouais.
Et le deuxième, je vais utiliser mon deuxième attaque. Je vais utiliser The Poignard. Puisque je dois utiliser ma deuxième main. Ouh, 20 naturel.
Ouf, ok. Ça va, yeah. Il est fini alors. Ok, bah, la première pièce, vous êtes débrouillé d'une main de maître, je crois. Là, vraiment, j'avais... La boule de feu a bien fonctionné. Très bien. Du coup,
attends, je reviens sur... On a fait un peu de bruit là, en fait.
Oui, ça, c'est vrai que vous avez fait.
On a fait kaboum.
Vous avez fait un gros boom, ça c'est sûr. Mais bon, c'est tout ce qu'il faut. Hein. Là, c'est comme ça qu'on se débrouille dans ces cas-là. Oui, très bien. Donc ici, en fait, ça ne. Si Gwendaïr examine la pièce et débloque un des sphinxters qui est caché, dissimulé, une pièce secrète.
Sphinxter,
oui. Vous avez derrière une sorte de penderie où il y a des sortes de tenues comme ça qui sont des tenues que vous pouvez que les Mind Flayers utilisent pour se déplacer dans le vide de l'espace. Et donc c'est des sortes de enfin vous êtes assez perturbé parce que ce que vous voyez, parce que ce sont des sortes de comment de combinaisons spatiales extraterrestres que vous pourriez éventuellement mettre si jamais vous vous retrouviez dans le vide de l'espace.
Non, on n'a pas la taille, je crois. Au moins deux d'entre nous n'ont pas la taille.
Oui, c'est un, oui, y a c'est un vrai petit que... problème peut-être.
Okay. Donc.
Oui, ça vous permet de respirer normalement dans n'importe quel environnement. Donc, et ça vous permet aussi d'être immunisé au gaz et ouais, au souffle des dragons quand c'est des gaz. Tous les gaz empoisonnés, en fait. Et donc, qu'est-ce qu'ils mettent? C'est une... ouais, c'est une sorte de... Ça englobe... The carapace-like augmentation and kiss portion of the wearer's neck, shoulder and chest. Ouais, ça se met sur les épaules, le cou et la poitrine. Et donc, c'est une sorte de demi-armure, comme ça. Mais par contre, on peut pas le porter avec un autre type d'armure. Ouais, c'est ça le défaut.
Oui, j'imagine bien.
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais, c'est intéressant, mais non, je découvre les Mind Flayers aussi. Hein. Mais donc, ouais, ils ont l'équipement, parce que parfois, ouais, ils se déplacent dans des environnements qui requièrent ce genre de choses.
Ouais, c'est très... cool. Finalement.
On est dans donc... Ouais. Donc, ouais, de toute façon, vous continuez donc vers le nord et vous arrivez dans la pièce la plus au nord, donc au sommet du cercle que vous êtes en train de parcourir, en fait. Donc, vous êtes dans une nouvelle salle sphérique. Cette fois-ci, la porte étant ouverte en arrivant, mais vous voyez qu'il y a rien de, enfin, il y a personne dedans. Dans cette pièce, en fait, il y a un feu ouvert au milieu de la pièce avec des ustensiles de cuisine et des choses qui sont préparées pour faire de la nourriture. Et il y a une sorte de truc à grumeaux qui est préparé avec différents légumes qui ont été collectés par des serviteurs qui sont allés à l'extérieur. Et donc vous réalisez que vous êtes dans la cuisine en fait pour les serviteurs qui sont. C'est pas évidemment pour les Mindflayers, cette nourriture là, c'est pour les Grimlocks, hein, pour qu'ils aient de quoi se nourrir. Et donc évidemment il y a des chaises pour les humanoïdes, etc. Donc tous les serviteurs viennent là, c'est la salle de repas des serviteurs des Mindflayers. Mais par contre évidemment il y a une porte qui mène au sud vers le centre de la structure et donc vous pensez que ça mène en direction du cerveau, là où vous allez quoi.
Good, allons-y.
Et quand le je vais dire, je vais encore le dire incorrectement, mais donc sphincter s'ouvre. De l'autre côté, il y a 4 Mindflayers, 4 Grimlocks et 2 des sortes des Beholders modifiés et 4 des Intellect Devourers qui vous attendent de l'autre côté. Ils se tiennent en fait dans le couloir pour protéger l'accès au Elder Brain, un grand cerveau. Mais quand ils vous voient, en fait. Et quand vous découvrez ça, évidemment, vous paniquez un peu, mais étonnamment, il ne vous attaque pas en réalité. Il garde juste l'entrée de la pièce, il vous observe, il vous voit clairement, mais il ne prenne pas d'action offensive dans votre direction. Mais clairement, ils sont là parce qu'ils savent qu'il y a des intrus et qu'ils sont là pour protéger l'accès à la truc du Elder Brain. Et donc, vous commencez à entendre une voix dans votre tête qui vous parle par télépathie. Bon, ça, c'est pas une attaque psionique, donc il arrive à le faire. Et le Elder Brain s'adresse à vous directement. Il dit, étranger dans mon vaisseau, j'ai besoin de votre aide. Nous pourrions passer un accord.
What the fuck? Depuis quand?
Vous savez que les Mindflayers, nous sommes une communauté avec un seul esprit et une seule conscience connectée les unes aux autres. Mais un membre de notre communauté. Du nom de Zélix est devenu une abomination. Il a commencé à s'intéresser à des arcanes secrets, à la nécromancie et à des dieux très anciens. Et cet individu Zélix est comme un virus dans ma colonie. Il a infecté la moitié de mes flagelleurs mentaux avec ses idées impures. Il les a guidés et à cause de lui nous avons été bannis du collectif et cette infection est en train de se propager dans mon utile. Nous pouvons trouver un arrangement. Vous devez m'aider à détruire Zélix et ses acolytes
en échange de...
Oui, c'est ça.
Suite au prochain épisode.
Quel cliffhanger, là, c'est vrai.
Oui, le gars, tu sais, c'est pas un cerveau pour rien. Hein. Donc, on a un deal, alors on fait ça, quoi. Oui.
Bah, c'est comme tous les super vilains, il a un deal. Son deal, c'est qu'il ne vous tue pas, quoi, tu vois.
Ça va pas être suffisant. À la limite, qui quittera Venloft pour trois éternités, ça, ça peut être négociable, mais...
Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Je crois qu'un un départ anticipé, ce serait bien. Une retraite anticipée, ce serait bien.
je voulais qu'on arrive quand même ce soir à ce retournement de situation, parce que je me doutais que vous ne vous y attendez pas, mais ça explique aussi l'attitude des Mindflayers qui sont dans la citadelle, en fait. Ils sont tous dans une sorte de transe parce qu'ils sont affectés par le virus de Zulix. Il y a une sorte de conflit interne dans la communauté des Mindflayers et donc ils sont tous préoccupés plus par ça que par votre présence dans le vaisseau, en fait. Du coup, le Elder Brain a besoin de vous.
Intéressant.
Je suis content. Le scénario, c'est pas de moi, mais il a contourné vos attentes. C'est bien.
C'est bien. Ouais, c'est bien. Il y a une reine de trop dans la ruche.
Allez, bah écoutez, c'était tout pour ce soir. À la prochaine fois, Alain.
Ciao, ciao. Bonne soirée.
Bonsoir, Loxod.
Salut.
Et ciao, Raph.
Ciao, ciao.
Allez, à la prochaine, les gars.
À la prochaine.